quatrième conférence. Vous entendez bien ?
Oui.
Voilà. Et la conférence de ce soir porte sur la fin du monde. En fait, si vous voulez un autre titre, l'esprit des derniers temps. À partir du moment où Jésus est ressuscité et monté aux cieux, il a inauguré les derniers temps. Les premiers chrétiens priaient sans cesse « Viens, Seigneur Jésus, Maranatha ». Nous le faisons d'ailleurs à toutes les messes. Nous attendons ta venue dans la gloire. Dans le credo, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. En fait, dans la Bible, les pages qui concernent la théologie de l'histoire sont très nombreuses. Toute la littérature prophétique, par exemple, surtout Isaïe, Ézéchiel, Daniel, dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse tout entière, et les discours sur la fin des temps dans les trois évangiles synoptiques, et certains passages des Épîtres, de saint Paul en particulier et de saint Pierre. Parmi tous ces textes, on peut dire que la parabole du bon grain et de l'ivraie, de la mauvaise herbe, donne l'interprétation la plus éclairante. Je suppose que vous connaissez la parabole. On la trouve dans Matthieu 13, 24 à 30, et l'explication est donnée ensuite dans les versets 36 à 43. Vous voyez, c'est le royaume de Dieu comparable à un champ dans lequel on a semé du blé, et un ennemi est arrivé, il a semé de la mauvaise herbe. Et donc, les moissonneurs veulent dire au maître de la moisson de dire mais on va arracher la mauvaise herbe immédiatement, parce que sinon ça ne va pas. Et il dit non, attendez, ne laissez faire jusqu'à la fin. Une fois que la moisson sera prête, on fera le tri. Et après, Jésus explique le bon grain et le blé, ce sont les sujets du royaume. Ce n'est pas le bien, ce sont des êtres humains. La mauvaise herbe, ce sont les sujets du mauvais, les suppôts de Satan. Si je traduis en langage populaire. Le texte dans l'évangile, c'est les sujets du mauvais, c'est pas le mal. La fin du monde, c'est la moisson. À la moisson, il y a le retour du Christ et les anges qui font le tri entre les sujets du mauvais et les sujets du royaume. Ça s'appelle le jugement dernier. Voilà. Je dis ça parce que dans tous les commentaires savants, on vous dit que dans tout le cœur des hommes, le bien et le mal sont mélangés, ce qui est une banalité effroyable, que tout le monde sait, et qui n'a rien à voir avec la parabole. Enfin bon, il y en a qui s'en contentent, parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité en face de ce que Jésus a dit. Alors en ouvrant nos oreilles, puisque Jésus dit « Ayez ceux qui ont des oreilles, ils entendront », c'est dit dans le texte au sujet de la parabole, hein, pour ceux qui sont durs d'oreilles. Je dirais qu'il y a trois enseignements décisifs dans cette parabole. Un, le retard du jugement qui nous impose la patience et qui nous interdit de chercher par nous-mêmes la solution finale. C'est exprès que j'utilise le mot « solution finale » en matière de justice. Deuxième enseignement, c'est le voile d'ignorance qui empêche de classer les gens dans l'axe du bien ou dans celui du mal. Nous ne savons pas qui est qui. Au fort interne, j'en ai déjà parlé dans les autres conférences. Enfin, troisièmement, la parabole nous révèle qu'un jugement dernier se fera. Car il y a réellement, dès maintenant, comme à chaque génération, des sujets du royaume et des sujets du mauvais. C'est-à-dire des gens qui sont en train de se sauver et d'autres qui sont en train de se perdre. Toujours à la lumière de cette parabole, nous pouvons déduire quelques lois générales qui orientent l'histoire. La loi la plus fondamentale, très importante, c'est celle du double progrès du bien et du mal. Jusqu'à la fin des temps, elle met en scène le conflit radical qui oppose ce que saint Augustin appelle les deux cités. C'est dans un écrit très célèbre de saint Augustin qui s'appelle la cité de Dieu. Il dit, il y a la cité de l'homme qui est fondée sur l'amour de soi jusqu'à l'oubli de Dieu, et la cité de Dieu qui est fondée sur l'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi. Ces deux options partagent secrètement les hommes au fort interne, et non pas en blocs sociaux ou religieux observables de l'extérieur. Là, je cite le Concile Vatican II, Codium et Spes, numéro 37. Je cite, « Un combat ardu contre les puissances des ténèbres traverse toute l'histoire des hommes. Commencé dès l'origine, il durera jusqu'au dernier jour, comme le Seigneur l'a dit. Engagé dans ce combat, l'homme doit sans cesse lutter pour rester attaché au bien et il ne peut parvenir à l'unité intérieure que moyennant de grands efforts avec l'aide de la grâce de Dieu. D'autres lois se dégagent suivant la même logique, loi du progrès technique, loi du progrès des connaissances, de la mondialisation croissante, de l'intensification du conflit avec le temps, et aussi, mais je n'ai pas le temps de le montrer, de la répétition spirale des mêmes figures historiques à chaque génération. C'est un thème en général, en gros, de Newman au XIXe siècle. C'est-à-dire chaque génération reproduit les mêmes enjeux, on va dire, comme une sorte de progression en spirale jusqu'à la fin du monde. Enfin, on pourrait dire qu'il y a aussi une loi d'accélération de l'histoire par les élus. C'est ce que dit l'épître de Pierre, la deuxième épître, chapitre 3, versets 11 à 13. Hâtez l'avènement du Christ. Comment hâter l'avènement du Christ? Si vous avez hâte, hein, parce qu'il y en a qui m'ont dit surtout pas tout de suite, hein, s'il te plaît. Eh bien, c'est en augmentant la dose de sainteté dans le monde. C'est comme ça qu'on hâte la venue du Christ. Alors, on dit ici, je dis qu'il y a des lois qui constituent une nécessité, mais à l'intérieur de ces lois, au niveau collectif, chacun reste totalement libre de se déterminer. Il n'est pas déterminé par ces lois. Les lois dont je parle, elles sont collectives. Et donc, on a une véritable philosophie ou théologie de l'histoire qui montre que l'histoire progresse vers un sommet, un paroxysme. Deuxième thème, c'est quand est-ce qu'arrivera la fin du monde? D'ailleurs, c'est une question que les apôtres posent à Jésus. Devant, vous savez, Jésus parle de la destruction du temple de Jérusalem. Et dans la tête des apôtres, ça veut dire, oh là là, c'est la fin du monde. Hein. La destruction du temple de Jérusalem, c'est terminé. Alors, ils disent à Jésus, quand cela arrivera-t-il? Et cela, c'est la fin du monde hein, pour eux. Mais on peut préciser encore, de quelle fin parlons-nous, la fin d'une période ou la fin ultime du monde? Le Nouveau Testament répond sans ambiguïté. La seule fin qui soit envisagée dans le Nouveau Testament, c'est bien la fin du monde. Ou si vous préférez, la fin des temps. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de tout. C'est la fin après laquelle il ne restera plus que l'univers nouveau, renouvelé, éternisé en Dieu. Rien ne permet de séparer la venue finale du Christ et le passage définitif du temps à l'éternité, puisque nous disons dans le Credo, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne qui n'aura pas de fin. D'ailleurs, la fin de l'histoire humaine coïncide aussi avec l'ébranlement cosmique universel. C'est Je cite le catéchisme de l'Église catholique, numéro 670. Quant à la date, si vous cherchez à avoir une date de l'événement, la réponse du Christ est célèbre, et célèbre. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît. Pas même les anges de Dieu, pas même le Fils, mais seulement le Père. Matthieu 24, 36. Dès lors, il nous faut refuser a priori tous les calculs de date, toutes les prédictions chiffrées sur la fin des temps. Les témoins de Jéhovah se sont déjà ridiculisés plusieurs fois avec cette histoire. Mais il y a des groupes catholiques qui se ridiculisent aussi pas mal, hein, avec des soi-disant révélations, apparitions, prédictions, prophéties. Bon. L'événement est caché dans le secret du Père et doit le rester. Pour respecter l'intention du Christ, nous révélant que c'est une ignorance radicale, il faut régler nos jumelles apocalyptiques. Ni trop loin, ni trop près, quand vous réglez vos jumelles, pour avoir la vision nette, vous faites l'essai de trop, un peu plus, un peu moins, et vous arrivez à la vision nette. Rien ne sert d'attendre le Christ du jour au lendemain, comme le faisaient les chrétiens de Thessalonique. Saint Paul a critiqué leur précipitation en montrant que la venue du Christ suppose un devenir historique à plus long terme. C'est dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Rien ne sert non plus d'attendre le Christ comme s'il devait venir que dans 200 ans, ou dans 1000 ans, puisqu'on est déjà 2000 ans à attendre, on peut encore attendre. C'est la tendance de ceux qui estiment que nous en sommes encore au début de l'ère chrétienne. Il y a des gens qui disent ça. Idée dangereuse si elle refroidit notre espérance par un scepticisme qui se croit informé. Référence 2e épître de Pierre, chapitre 3, verset 34. Et je crois que la meilleure attitude, elle est donnée dans un texte qu'on a dans la liturgie des heures de prière de saint Éphrem, qui dit ceci, c'est le office des lectures, premier jeudi de l'Avent. Il nous a caché cela pour que nous veillions et que chacun d'entre nous pense que cela pourra se produire pendant sa vie. Si le temps de sa venue avait été révélé, son avènement aurait été quelque chose de banal et les nations et les siècles dans lesquels il se produira ne l'auraient pas désiré. Il a bien dit qu'il viendrait, mais il n'a pas précisé à quel moment, et ainsi, toutes les générations et tous les siècles l'attendent ardemment. Alors maintenant, ça ne nous empêche pas de dire qu'il y a des signes, discerner les signes des temps. C'est un des thèmes d'ailleurs qui était remis en d'actualité par le Concile Vatican II, le discernement des signes des temps. Alors Jésus en parle en disant que comme un paysan fait de la météo intuitive, vous savez discerner si ça va, comment va tourner le ciel, hein, en faisant de l'agriculture, hein, paysan. Eh bien, vous aussi pouvez discerner les signes. Mais alors Jésus donne un signe assez paradoxal, c'est le signe de Jonas. Qu'est-ce que ça veut dire ce signe de Jonas ? Eh bien, en fait, c'est un signe double. Souvent, on ne voit dans le signe de Jonas qu'une partie, c'est-à-dire Jonas englouti dans le ventre du gros poisson et qui est recraché sur la plage 3 jours après. C'est le signe de la mort et de la résurrection du Christ. Hein, c'est un signe pascal. Mais il y a un deuxième signe de Jonas, c'est le petit prophète qui traverse l'immense ville de Ninive et qui, en 3 jours aussi, dans sa prédication, arrive à obtenir une conversion massive des païens. Alors, c'est un signe magnifique, merveilleux. Bon, ce petit livre de Jonas, qui est une sorte de satire très très drôle, drôlatique d'ailleurs, de la position d'Israël dans le monde païen, et de sa trouille, puisque Jonas n'a qu'une idée, c'est de rebrousser chemin et de ne pas faire le boulot, devant la mission qui lui est confiée. Mais alors voilà comment j'interprète, et je suggère d'interpréter le double signe de Jonas. Du côté de Jonas englouti et recraché, c'est la grande épreuve, on pourrait dire, d'être submergé par le pouvoir du mal et d'être vainqueur en ressortant de l'abîme. À ce mystère pascal peuvent se rattacher tous les signes négatifs que Jésus énumère dans les évangiles. Les guerres, les tremblements de terre, les épidémies, le développement des sectes, les persécutions, les impostures religieuses, l'apostasie. Ils sont très visibles parce que l'œuvre du mal est plus tapageuse que l'œuvre du bien. On pourrait dire que l'œuvre du mal est exhibitionniste. Ces signes doivent être lus par les chrétiens en utilisant l'image de l'accouchement, qui est plusieurs fois énoncée dans Marc 13:8, Jean 16:21, Romains 8:18-24. À travers les souffrances et les épreuves de toutes sortes, s'accomplit une œuvre divine de mise au monde, la genèse d'une terre nouvelle et d'un ciel nouveau, qui est comme une sorte d'accouchement dans la douleur. Mais en même temps, il y a le signe positif qui est la conversion des païens. De même que la parole du prophète a déclenché une immense démarche de conversion, de même l'effusion de l'Esprit Saint, la Pentecôte, a fait naître un peuple universel par la jonction entre les Juifs et les païens. À ce mystère d'effusion spirituelle peuvent se rattacher tous les signes positifs de l'histoire. Les œuvres des saints à chaque génération. Les apparitions comme celle de Fatima, grand signe des temps pour Jean-Paul II. Les signes charismatiques surnaturels. Des œuvres de justice et de charité. L'évangélisation. Le Concile Vatican II applique cette notion de signe des temps au mouvement œcuménique, à la liberté religieuse, au progrès du savoir, à la promotion de la femme, etc. Et il invite à observer ce qui se passe aujourd'hui en retenant ce qui est bon. Donc vous avez la double croissance du mal et du bien, qui est le mélange permanent entre le bon grain et l'ivraie. Cette double phase du signe de Jonas ne nous dit pas d'ailleurs si cette venue finale est proche. De fait, ces signes sont communs à toutes les générations. Pourtant, quelques-uns semblent réservés à la période finale. Voilà, je vais vous en donner un, très intéressant, que beaucoup de pères de l'Église et de saints ont essayé d'interpréter à leur manière. Dans Matthieu 24:14, je cite Jésus. Il dit, la bonne nouvelle de l'Évangile, l'annonce de l'Évangile, sera annoncée à la face de tous les peuples. Et alors viendra la fin. Et juste après, il y a la grande épreuve de l'Antichrist, la persécution maximum, terrible, sans équivalent. Et il y a un deuxième signe qui est énoncé par saint Paul dans l'Épître aux Romains, surtout au chapitre 11, la reconnaissance du Messie par tout Israël. Un troisième signe, c'est la venue d'un empire antichristique mondial, sans équivalent, sans concurrent, sans successeur. Un dernier signe, l'ébranlement cosmique comparable au déluge, c'est-à-dire un dérèglement total des forces de la nature. La succession de ces événements, dans les textes du Nouveau Testament, exclut le rêve d'un âge d'or qui verrait le triomphe social et politique de l'Évangile sur la terre. On appelle ça le millénarisme. Le magistère de l'Église a clairement rejeté cette thèse utopique défendue par certains pères de l'Église des premiers siècles. Alors, je vais essayer de parcourir un peu ces derniers signes. Rapidement, l'Évangile proclamé à la face de tous les peuples, qu'est-ce que ça veut dire? Comment imaginer cet événement? Voilà mon hypothèse, parce que là, on ne peut faire que des hypothèses. Hein. Mais je pense qu'avec tout ce que j'ai lu là-dessus, mon hypothèse me paraît se justifier. En effet, la Pentecôte de Jérusalem, qui a marqué la naissance de l'Église, est mise par le discours de Pierre. Lisez le texte de la Pentecôte, hein. Pierre est le premier qui parle. Citant le prophète Joël, c'est une prophétie de Joël, en lien avec la fin du monde. Or, à la Pentecôte à Jérusalem, il n'y a pas eu la fin du monde. Mais l'annonce de l'effusion de l'Esprit-Saint est mise par le prophète Joël en lien avec la fin du monde. Donc, on peut déduire de ça que la Pentecôte n'est que le début de ce feu que Jésus veut répandre sur la terre, qui doit renouveler la face de la terre. On va d'une petite Pentecôte à Jérusalem, qui est d'ailleurs exclusivement juive, à une extension de la Pentecôte, qui ensuite passe aux païens, avec le centurion Corneille et puis la ville d'Antioche. Et petit à petit, nous allons vers une Pentecôte mondiale à la fin des temps. Et c'est curieux parce que la Pentecôte, c'est la fête de la moisson, comme par hasard. C'était aussi devenu la fête de la loi juive. Cette apothéose mondiale de l'esprit ne sera possible, à mon avis, ça ne veut pas dire que le monde entier se convertira, hein. Ça veut dire qu'il y aura un tsunami spirituel, phénoménal. Vous voyez, l'évangile sera annoncé à la face de tous les peuples de manière magistrale, pertinente, percutante et bouleversante. Et comment ça serait possible? Eh bien, je pense que ça n'est possible que par l'unification visible de ce que j'appelle le pôle christique. Ça veut dire l'unification de toutes les confessions chrétiennes en une seule, une sainte, catholique et apostolique. Et ça veut dire le ralliement des Juifs à ce pôle christique, chrétien, qui est une des prophéties, je vais en reparler après. Voilà. Imaginez un petit peu une seconde ce que ça donnerait. Je pense que ça serait phénoménal, magistral. D'ailleurs, Jésus a dit une prière au chapitre 17 de Saint Jean, et je ne pense pas qu'il ait déposé ces paroles en l'air. Je prie pour qu'ils soient un, afin que le monde croie. Alors, si c'est simplement utopique et si c'est une unité après la fin du monde au ciel, je ne vois pas comment Jésus peut dire afin que le monde croie. Qu'ils soient un pour que le monde croie. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est une prière et c'est une prophétie. Et que l'œcuménisme n'est pas arrivé par hasard à partir du XIXe siècle, c'est l'Esprit-Saint qui est à l'œuvre et qui va vers un thème qui sera l'unification réelle. Je pense quand même que quand cet événement se produira, ça entraînera des divisions dans toutes les confessions chrétiennes. Parce qu'il y en a qui ne marcheront pas du tout, forcément. Aussi par les Juifs, hein, c'est pas tous les Juifs qui accepteront ça. Voilà, nous aurons donc sans doute l'unification des chrétiens de toute confession en une seule Église, remettant en évidence l'Église indivise du premier millénaire, enrichie de tous les acquis du second et des leçons évangéliques tirées de nos anciennes divisions. Ce que dit d'ailleurs le pape Jean-Paul II dans son encyclique sur l'œcuménisme. Cette nouvelle unité catholique universelle ne se produira sans doute pas sans créer de nouvelles divisions dans toutes les confessions entre les vrais spirituels qui se laisseront conduire par l'esprit et les autres qui verront une trahison de leur identité confessionnelle. La révélation nous donne donc le droit d'espérer et de préparer une Pentecôte d'amour, dont parlait d'ailleurs Marthe Robin, ou cette civilisation de l'amour dont parlent les papes depuis Paul VI. Celui-ci, le pape Paul VI, a employé pour la première fois l'expression « civilisation de l'amour » en 1975 dans un discours prophétique à la fin de l'année jubilaire. Ça veut dire que l'influence chrétienne se fera par la base, non pas d'abord à travers des grands discours, mais à travers la réalité concrète de l'amour. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. C'est ça l'enjeu. Le grand signe déclencheur de cette fascinale sera sans doute la conversion du peuple juif au Messie de Nazareth, rejoignant ainsi et achevant l'unité du pôle christique. Cette thèse est énoncée dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 674. Je vous le lis. « La venue du Messie glorieux, dit le catéchisme, est suspendue à tout moment de l'histoire à sa reconnaissance par tout Israël. » Alors, il donne des références de saint Paul, etc. Saint Paul lui fait écho, si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera leur assomption sinon la vie d'entre les morts? Romains 11, 15. L'entrée de la plénitude des Juifs, Romains 11, 12. Dans le salut messianique à la suite de la plénitude des païens, Romains 11, 25, donnera au peuple de Dieu de réaliser la plénitude du Christ, Éphésiens 4, 13, dans laquelle Dieu sera tout en tous. Cette thèse donne la meilleure solution à une énigme du Nouveau Testament présentée dans la deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 5 à 8. Si vous lisez ce petit passage des Thessaloniciens, vous verrez que saint Paul dit que la venue du Christ n'est pas encore possible parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche, il y a un obstacle. Et il dit « quand cet obstacle sera levé, alors viendra l'Antichrist ». Malheureusement, il ne dit pas ce que c'est. Donc, les pères de l'Église ont phosphoré là-dessus. Je vous fais grâce de toutes les hypothèses, mais je pense que la meilleure hypothèse est celle que donne le catéchisme de l'Église catholique. Alors, le grand signe qui va suivre l'unification du pôle christique, c'est l'unification du pôle antichristique. Ça s'appelle le règne de l'Antichrist. Ça aussi, c'est un thème très fort dans le Nouveau Testament. Le témoignage très puissant de la dernière vague d'évangélisation à la face de tous les peuples ne convaincra pas tout le monde. Il se produira comme dans les siècles précédents, dans un contexte de confrontation entre les positions les plus diverses. Au moment où des multitudes se convertiront, d'autres multitudes seront plus hostiles que jamais. C'est la lutte finale. Si on peut transposer ce chant, ouais. C'est le combat spirituel. Donc le mystère d'iniquité toujours à l'œuvre sous la direction du prince de ce monde ne pourra pas supporter longtemps ce jour des rameaux à l'échelle mondiale. L'unification du pôle christique lui donnera le point d'appui qui lui manquait pour réaliser celui du pôle antichristique. La religion de l'homme qui se fait Dieu tentera de submerger la religion du Dieu fait homme. L'orgueil satanique contre humilité divino-humaine. Ce sera l'abomination de la désolation. La pire période de toute l'histoire humaine, selon l'Évangile. Le vendredi saint de l'Église en marche dans l'histoire. Un empire totalitaire mondial se mettra en place, en récupérant sans doute, dans un premier temps, les idées chrétiennes travesties en humanisme de la voie large. Il y a un fameux texte d'un philosophe russe qui s'appelle Soloviev sur l'Antéchrist qui raconte ça. Et je pense que c'est une bonne présentation. L'Antéchrist, ça veut dire non seulement contre le Christ, c'est pas Antéchrist. Maintenant, on traduit plutôt dans les catéchismes par Antichrist. Ce qui est d'ailleurs traduction littérale. Et c'est aussi pseudo-Christ. Ça veut dire que s'il aura du succès aux yeux du monde, c'est qu'il va imiter, il va faire de la fausse monnaie. Vous voyez ? Dans un premier temps, ça sera très séduisant. Après, ça deviendra totalement insupportable. Voilà. C'est la technique, la stratégie. Une fois saisi tous les leviers du pouvoir mondial, il se révélera dans toute sa cruauté et sa perversité. Donc je vous cite le deuxième épître de Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 10. Donc c'est saint Paul qui parle. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme de la perversion, le fils de la perdition, celui qui s'élève au-dessus de tout, tout ce qu'on appelle Dieu et qui est objet de vénération, jusqu'à s'asseoir en personne dans le temple de Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela quand j'étais encore avec vous? Mais vous savez ce qu'il retient actuellement pour qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Voilà, c'est ça qu'on savait pas. Car déjà le mystère de la perversion est à l'œuvre, que seulement celui qui le retient soit écarté, alors se révélera le pervers que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, pulvérisera par l'épiphanie de sa parousie. Ça, c'est ma traduction littérale. La parousie opposée est celle de l'activité satanique. Elle multipliera coups de force, signes magiques, prodiges mensongers, avec toutes les tromperies de l'injustice pour ceux qui se perdent faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui aurait permis leur salut. Vous avez le même thème qui fait l'objet d'un chapitre entier de l'Apocalypse, qui est le chapitre 13. La terre entière suivit la bête. Il y a le dragon, la bête et le faux prophète dans l'Apocalypse. C'est une trinité satanique. Le dragon pour le Père, la bête pour l'Esprit Saint et le faux prophète pour le Christ, le soi-disant Christ. Cette épreuve terrible qui va submerger l'humanité sera de courte durée, qui est symbolisée dans la Bible par le chiffre 3 ans et demi. 3 ans et demi, ça veut dire la moitié de 7. Donc c'est à peu près 3 ans et demi. Ça fait penser à peu près à Hitler, vous voyez, la Deuxième Guerre mondiale. C'est un peu ce genre-là, vous voyez, mais à échelle globale, complète. Les disciples du Christ, appartenant à cette période, devront vivre en quelque sorte la passion de l'Église. Là, je cite le catéchisme, 677. L'Église entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. À la fin de cette période, ce qu'on appelle la parousie, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, parousie, ça veut dire apparition splendide, prestigieuse, glorieuse. On utilisait ce mot pour l'arrivée de l'empereur romain en gloire dans un endroit, dans une région, la parousie de l'empereur. Sa gloire. Donc c'est l'apparition d'un personnage prestigieux dans toute sa gloire. C'est ce terme qui désigne la venue finale de Christ. Donc je cite Matthieu 24, versets 29 à 31. Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec une trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre coins du monde, d'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Le monde physique, le cosmos, passera par une refonte totale, au prix d'une destruction générale par le feu, c'est-à-dire un déluge de feu, comme il y a eu un déluge d'eau à l'origine, on va de l'eau vers le feu. Référence au grand signe dans le ciel, aussi il a annoncé des grands signes dans le ciel, et par exemple Fatima, vous avez le fameux miracle du soleil, qui donne quelque chose d'assez étonnant, une sorte de signal, d'alerte, d'avertissement, hein, où les gens ont senti le soleil s'approcher avec la chaleur qui augmentait, en quelques minutes. Hein. Tout a été séché, alors qu'ils étaient mouillés jusqu'aux os, hein. Tout a été séché en quelques minutes. Ils ont cru que c'était la fin du monde, ils se sont tous mis à genoux et après ils se sont relevés et ils ont chanté le credo. Sachez d'abord que dans les 10 saint Pierre, 2e épître de Pierre, chapitre 3, verset 3 à 13, dans les derniers jours, des moqueurs viendront avec leurs moqueries, allant au gré de leurs convoitises et disant : où en est la promesse de son avènement ? En effet, depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout reste pareil depuis le début de la création. En prétendant cela, ils oublient que jadis, il y avait des cieux, ainsi qu'une terre sortie de l'eau et constituée au milieu de l'eau grâce à la parole de Dieu. Par ces mêmes éléments, le monde d'alors périt dans les eaux du déluge. Mais les cieux et la terre de maintenant, la même parole les réserve et les garde pour le feu, en vue du jour où les hommes impies seront jugés et périront. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Voilà, donc à ce moment-là, je vais terminer là-dessus, viendront la résurrection physique, le jugement dernier, et la plénitude de la nouvelle terre et des cieux nouveaux dans le ciel de la Trinité. 1. Résurrection physique. Il faut distinguer cette résurrection de la résurrection spirituelle qui est introduite dans la béatitude dont j'ai parlé la dernière fois, le paradis. La résurrection physique reconstituera l'être humain complet pour le meilleur avec un corps glorieux, ou pour le pire, avec un corps torturé dans le monde infernal. Avec le corps humain, tout l'univers physique, y compris tous les degrés d'être, minéral, végétal, animal, sera reconstitué autrement. Alors vous pouvez penser à des animaux glorieux. Vous avez tout à fait le droit. Vous avez une affection pour votre petit chien-chien. Je dis ça en rigolant, mais c'est sérieux quand même. Hein, parce que on n'a pas de raison de penser, j'espère qu'il n'y aura pas trop de moustiques glorieux ou d'animaux d'usine. Hein. Donc ce sera le paradis terrestre éternisé, où il y aura tous les degrés d'être. Je pense qu'il n'y a aucune raison de dire le contraire. C'est ce que pense en tout cas certains théologiens aujourd'hui, comme par exemple Urs von Balthasar. Le jugement dernier. La nouveauté du jugement dernier, par rapport au jugement individuel, qu'on appelle le jugement particulier à la mort de chaque personne humaine, le jugement dernier fera entrer les jugements individuels dans la vérité totale, enfin dévoilée au grand jour, comme les fragments d'un immense puzzle. Car tous les hommes dépendent les uns des autres. Dans la communion des saints comme dans le péché originel, ils forment un tissu ininterrompu de liens, dont nous voyons ici-bas qu'une infime partie. Il faudra attendre la fin pour que le réseau s'achève. Comme une tapisserie, alors seulement les jugements particuliers pourront s'insérer dans la trame exhaustive de l'histoire. Ce sera le bilan. Le jugement général révélera au grand jour le bilan précis, individuel et collectif, de de toutes les existences humaines dans leurs interdépendances. Chaque réalité collective apparaîtra dans sa vérité, les nations, les entreprises, les groupes religieux, les familles, etc., etc., etc. Évidemment, c'est complètement inimaginable. Hein. Dernière étape, le plérôme. Plérôme, c'est un terme aussi un peu technique, qui veut dire plénitude du Christ total. P-L-E-R-O, accent circonflexe, M-E. La place définitive de chacun pourra être fixée alors, puisque l'organisme sera tout à fait construit, le Christ total. L'histoire ayant achevé son cours, magnifique et douloureux. Ainsi s'accomplira enfin le grand idéal de justice et de vérité qui travaillait les cœurs depuis toujours. Et l'Apocalypse évoque cette plénitude à travers l'image de la Jérusalem céleste. Alors vous avez le magnifique chapitre 21 de l'Apocalypse. C'est une extraordinaire vision symbolique de la Jérusalem céleste, qui est en or massif, transparente comme le cristal. Ça c'est pas mal, comme surréaliste. Or massif, transparente comme le cristal. Pour conclure, je dirais, donc, il s'agit aujourd'hui, dans les enjeux de la mondialisation, de l'époque que nous vivons, qui est une époque particulièrement travaillée par des thèmes apocalyptiques, vous le sentez bien. Comme dit Fabrice Adjadj, nous sommes les premières générations à ne plus avoir d'avenir à long terme. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'anticiper le risque pour l'humanité d'être dans un délai. Nous ne sommes plus dans un époque, dit Fabrice Adjadj, nous ne sommes plus dans une époque, nous sommes dans un délai. On est dans une sorte de compte à rebours. C'est la mentalité d'aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui sont beaucoup plus pessimistes que ce que je dis là. Alors, il ne faut pas être pessimiste, il ne faut pas non plus être optimiste. Il faut avoir l'espérance théologale, qui est une victoire sur toutes les raisons de désespérer. Et il y en a plein. Donc, il faut passer du statut de spectateur à celui d'acteur. Et celui d'acteur consiste non pas à être informé de tout ce qui se passe sur la planète, ce qui est d'ailleurs impossible, et les médias sont des loupes déformantes, ô combien des véritables proportions, parce que c'est des petites lucarnes, mais c'est des petites fenêtres de rien du tout, hein, sur l'ensemble de ce qui se passe réellement dans toutes les populations, à tous les niveaux. Donc pour être des acteurs, il faut se pénétrer de ce que je vous ai dit ce soir et il faut prier intensément sur l'actualité. Moi, tous les jours, je dis plusieurs fois par jour, Maranatha, viens Seigneur Jésus, nous attendons ta venue dans la gloire. Je dis plusieurs fois par jour aussi, je te supplie pour l'unification des enfants de Dieu dispersés. Dans une seule église, une sainte catholique et apostolique. Je prie tous les jours pour que l'évangile, la bonne nouvelle, soit annoncée à la face de tout le peuple. Voilà. C'est ça que j'appelle être acteur. Et puis essayer tous les jours de se conformer un peu plus à l'évangile, quand même, évidemment. Voilà, de vivre un radicalisme plus fort. Et je pense aussi qu'il faut ça on va pouvoir en reparler, il faut se méfier énormément des fausses monnaies, de bonnes idées, de bonnes intentions, de valeurs soi-disant chrétiennes, ou de présentation d'une certaine forme de christianisme dénaturé et dévalué. Le Christ met en garde, c'est un des avertissements les plus importants, prenez garde de ne pas vous laisser égarer par des faux prophètes. Donc c'est le discernement. Plus les enjeux spirituels deviennent intenses, majeurs, d'un très haut niveau de pression, plus on risque de se laisser égarer. Et on risque aussi de perdre l'espérance. Puisque Jésus dit d'ailleurs, des hommes mourront de peur à la vue des malheurs arrivant sur le monde. Mourront de peur. On peut mourir de peur. Mais si on... Et il dit, tenez bon, restez debout et vous aurez la force d'échapper à ce qui doit arriver. Ça ne veut pas dire d'échapper au malheur, mais d'échapper à la peur, à la capitulation et au désespoir. Donc c'est quelque chose d'assez, quand même, il faut du courage. Il faut un système nerveux assez habité par la force d'en haut. La force d'en haut. Espérance, foi, charité à haute dose. Voilà. L'esprit des derniers temps. J'ai écrit d'ailleurs un livre, c'est mon plus gros livre d'ailleurs, mais ils n'ont pas très bien. Il s'appelle L'esprit des derniers temps. Je raconte tout ça, mais beaucoup plus détaillé. Tous les sujets. Voilà. J'en ai fini maintenant, donc on peut échanger un petit moment si vous voulez.